Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et bienvenue dans le Libre Journal des Historiens. Je reçois aujourd'hui Guillaume Fiquet. Guillaume Fiquet qui est le directeur de la Revue d'Histoire Européenne, qui anime par ailleurs l'émission historique passé-présent sur TV Liberté. Et il vient de publier dans sa revue un dossier consacré à la perfide Albion, un dossier consacré essentiellement donc à l'histoire des relations franco-anglaises. Et il m'a paru intéressant de pousser quelques réflexions sur ce domaine bien, bien particulier. Au départ, je voudrais présenter la revue, qui est une excellente publication, tant par la diversité des sujets abordés que par la qualité des auteurs, la qualité de l'iconographie. Quelle est l'origine, Guillaume Fiquet, de la Revue d'Histoire Européenne? Dans quelles conditions est-ce que vous avez démarré ce titre nouveau?
Oui, bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Écoutez, la Revue d'Histoire Européenne a maintenant 7 ans d'existence.
7 ans.
Ça passe très vite. Mmh. Nous en sommes au numéro, là c'est le numéro 29 hein, sur la perfide Albion. Alors c'est un bimestriel maintenant, nous avons commencé en trimestriel et passé en bimestriel il y a à peu près 2 ans, mes souvenirs. Mais écoutez, le constat était simple, après la disparition de la nouvelle revue d'histoire.
Hein, oui, en 2017.
Le rédacteur en chef, il y avait un vide. Un vide à combler d'une revue d'histoire dans notre famille de pensée, c'est-à-dire que voilà, on voulait ni faire de repentance ni forcément de récit national d'ailleurs, mais vraiment l'histoire éclairée principalement par les faits et surtout donc donner cet éclairage de repentance ni non plus de glorification absolue
il fallait bien sûr réagir par rapport à tout le wokistan.
Voilà, c'est ça, et surtout aborder des sujets, donner des angles, déconstruire je pense par exemple
déconstruire le discours dominant.
Je pense par exemple à un numéro que nous avons fait sur c'était le numéro 27 je crois, sur par exemple sur l'inquisition. Voilà, c'était vraiment là de déconstruire la légende noire de l'Inquisition et surtout de remettre les choses dans leur contexte.
Donc, vous n'êtes pas un ami de Patrick Boucheron.
Pas vraiment. J'aimerais bien l'interviewer.
Qui est le champion de la déconstruction.
Le champion de la déconstruction.
Et du roman national.
Voilà. Mais on a donc... Patrick Boucheron, j'ai lancé quelques perches pour l'interviewer dans la RHE.
C'est ça, ah oui?
Oui, mais bon...
Ça m'étonnerait qu'il vous accorde...
Visiblement, il n'accepte pas la contradiction.
Qu'il vous accorde
un débat
entretien.
Avec vous, d'ailleurs. Ça aurait été pas mal. Donc voilà, donc il fallait effectivement combler ce vide, ce que nous essayons de faire maintenant depuis 7 ans, et j'espère que nos lecteurs, qui sont souvent des auditeurs de Radio Courtoisie, y trouvent leur compte.
Voilà, et donc je recommande tout à fait cette revue à nos auditeurs qui sont passionnés d'histoire. Alors je voudrais présenter un petit peu le contenu de ce dernier numéro, en dehors du dossier qui va retenir spécialement notre attention. Hein, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés sous des formes diverses. Initialement, un entretien sur le grand retour de la guerre dans l'histoire contemporaine.
Avec Rodolphe Carte.
Oui, Que peut-on retenir de cet entretien sur le grand retour de la guerre?
Écoutez, ce qu'il faut sur ce grand entretien, c'est surtout déjà d'expliquer effectivement que c'est le grand retour. Moi, je trouvais que le titre était... le grand retour dans l'histoire contemporaine. Bon, la guerre n'a jamais quitté finalement l'histoire.
La guerre est la mère de toutes choses, comme disait Héraclite en son temps.
Et c'était surtout de voir effectivement les causes. Il explique les causes de ce grand retour, notamment avec le néo-impérialisme américain de l'administration Trump. voilà, avec les, vraiment une nouvelle forme du projet géopolitique américain. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec la guerre en Iran, en Irak. Bon, hein, il ne parle pas que de cela, il parle également, parce que Rudolf Kahrt avait consacré une biographie à Georges Sorel, dans lequel il explique que la violence est le moteur des sociétés humaines, et que finalement est-ce que ce bellicisme de nos élites aujourd'hui, par exemple envers la Russie, est-ce que c'est vraiment un réveil de l'âme guerrière en Europe? On n'en est pas sûr. On est plutôt dans le suivisme absolu à ce niveau-là. Est-ce que c'est il dit que le bellicisme de nos élites envers la Russie est davantage le témoignage du suicide européen en cours que du réveil de l'âme guerrière. Donc voilà pour cet entretien avec Rudolf Kahrt, sur lequel il explore plutôt, si vous voulez, non pas d'une manière très, très factuelle, c'est plutôt véritablement ce que peut représenter la guerre pour l'Europe.
Alors, outre cet entretien, vous avez une rubrique intitulée « La mémoire des lieux » et à propos de laquelle vous présentez un site italien qui est la cathédrale de Monza.
Cathédrale de Monza.
Et qui abrite la couronne
de fer. Voilà, donc Monza n'est pas connue seulement pour son Grand Prix de Formule 1.
Terroir lombard.
Oui.
Voilà.
Et c'est cette couronne de fer donc, qui est exposée dans la cathédrale de Monza a une histoire assez intéressante parce qu'elle date. On identifie, je crois, à peu près au XIVe siècle. Et donc on a construit à date de l'époque des rois lombards, mais surtout donc elle existe toujours. Et par exemple Napoléon l'a portée lors de son couronnement lorsqu'il a été couronné roi d'Italie. Alors cette rubrique mémoire des lieux, là on parle de la couronne de Monza, mais ensuite on parle de la cathédrale et du dôme de Monza.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous choisissez des lieux qui sont pas exclusivement français.
Ah non, se balade dans toute l'Europe.
Nous avons un patrimoine historique tout à fait considérable, mais il y a aussi d'autres choses méconnues d'ailleurs du public français.
Oui, on ne va pas vous faire, si vous voulez, mémoire des lieux sur Versailles. Ça ne serait pas forcément ce qui est de plus pertinent. Non, on essaie de faire découvrir à nos lecteurs des endroits soit très connus, mais en allant, parce qu'on a parlé de Pise dernièrement, par exemple. Alors, on ne parle pas que de l'Italie, hein, je rassure mes lecteurs. Je ne sais pas dans le prochain numéro ce que ça... Enfin, si je sais un peu, j'ai une petite idée. Je pense qu'on va partir en Europe de l'Est pour le prochain.
Europe de l'Est, oui.
Le prochain numéro de l'Est, c'est sous terre. Voilà. Non, mais il y a des... Si vous voulez, il y a vraiment des coins à visiter. Bon, c'est le côté un peu touristique, si vous voulez, guide touristique historique de la revue. Nous avons aussi également une rubrique récurrente dans la revue qui est un portrait, donc là pareil on prend si vous voulez des gens qui sont pas forcément toujours très connus, et là c'est Henri Rochefort qui fut fin du 19e, début 20e.
Une figure très importante de l'histoire journalistique.
Voilà,
politique,
on l'a intitulé l'aristocrate rebelle.
Voilà.
Prince des polémistes. Alors c'est un aristocrate authentique, mais il est également l'ami du peuple, l'ennemi des puissants. C'est un type qui aimait bien faire des duels. Il était. Donc c'est un personnage assez haut en couleur et c'est surtout le créateur d'une revue dont le nom est assez connu qui s'appelle La Lanterne.
La Lanterne. Ouais.
Mais voilà, il a eu une vie assez mouvementée. C'est d'ailleurs, je crois, le seul homme qui a pu s'échapper. Enfin, c'est un des rares qui a pu s'échapper du bagne de Nouvelle-Calédonie, par exemple. Il partait en bateau. Ouais. Il s'est retrouvé sur un rocher, récupéré ensuite par un autre. Bateau. Il s'est mis également au service du général Boulanger. Mais il était très populaire.
C'est une figure tout à fait oubliée aujourd'hui, étant donné les manques considérables en matière d'enseignement de l'histoire. notamment l'histoire du 19e siècle, qui était très, très bien connue à l'époque du Malé à Isaac, et qu'on étudiait dans les classes de première et de terminale. Et aujourd'hui, toutes ces séquences-là sont en grande partie oubliées par nos jeunes générations.
Oubliées parce que malheureusement, quand vous voyez le nombre d'heures d'histoire qu'ont nos lycéens, malheureusement, on peut pas tout faire, quoi. Donc, on est obligé de faire des coupes sombres qui sont pas forcément les meilleures.
Bien sûr. Alors, je vois une autre rubrique habituelle à l'école de l'histoire qui est tenue par l'excellent Arthur von Watter. Et consacre dans ce numéro, consacre à Xénophon.
Oui. Alors cette rubrique, si vous voulez, à l'école de l'histoire, on fait un focus dans chaque numéro sur un historien. Alors on alterne. Hein, on n'a pas pris par ordre chronologique parce que sinon on serait encore dans l'Antiquité.
Oui.
Donc on fait des focus sur les historiens qui ont marqué, l'historiographie.
Thucydide, Tacite,
voilà, mais également mais on peut aussi parler de Marc Bloch
ou Fernand Braudel.
Voilà, exactement. Donc on passe vraiment en revue toutes les grandes écoles historiques ou tous les grands courants de la recherche historique. Et là, c'est Xénophon. Alors c'est toujours, ce sont toujours en plus des historiens, surtout dans l'Antiquité, qui ont vraiment mis, c'était pas forcément des hommes de bibliothèque. Hein,
non, bien sûr.
Xénophon, par exemple, il a participé à l'expédition des 10 000.
Des 10 000, oui, bien sûr.
Donc qu'il a d'ailleurs dans sa fameuse anabase, c'est lui qui en a fait la. C'est lui qui en a fait la relation. Donc, c'est un homme de guerre, mais c'est aussi,
bien sûr.
C'est aussi un philosophe et un historien, et donc il est également connu par, il a écrit une apologie de Socrate, il a écrit, donc il a laissé vraiment une œuvre considérable, il a été très étudié au...
Un de nos grands classiques.
Très étudié au 19e 19e siècle, mais le 19e siècle a un peu mis dans un placard, on le jugeait un peu trop éclaté, sans réelle profondeur, on le prenait surtout pour un pâle imitateur de Thucydide, qui présentant un intérêt limité pour les historiens. Et voilà, donc c'est quand même un homme d'action, un homme de réflexion intéressant. J'invite nos lecteurs à le découvrir.
Et puis alors, vous avez un article également sur un article de géopolitique.
Oui, alors c'est un petit article d'une page, c'est Antoine de Lacoste
que nous connaissons bien, qui est venu plusieurs fois à cette émission, et sur la naissance du couple germano-italien.
Voilà, là il parle du couple germano-italien, si vous voulez, avant il y avait le couple franco-allemand, Et puis, il faut dire qu'Emmanuel Macron l'a un peu enterré, ce couple franco-allemand, et on assiste...
Allez, oui, les Allemands y sont aussi pour quelque chose.
Oui,
hein.
Oui, bien sûr. Mais et de plus en plus osé, et là, il y a effectivement... Alors bon, il y a des divergences, bien évidemment, entre l'Allemagne et l'Italie, mais choses ont l'air de se passer.
Mais il y a des convergences, sur certains sujets, effectivement, oui.
Et c'est surtout une façon de mettre... une jolie pierre dans le jardin, dans le jardin français, comme dit Antoine de Lacoste.
Alors, il y a des articles sur des questions de fond qui sont également tout à fait intéressants. Vous avez un article, une synthèse sur l'héritage des Indo-Européens.
Oui.
Grand débat s'il en est. Hein. On connaît le livre de Jean-Paul Demoule qui s'est attaché à déconstruire, là aussi... l'histoire des Indo-Européens. Donc c'est utile et important que des revues d'histoire grand public amènent un certain nombre de lumières sur la...
Alors,
sur la question.
Alors cet article d'ailleurs, écrit par Aristide Lecat, que les lecteurs d'Éléments, par exemple, connaissent bien, cet article est le premier d'une série. Il est issu d'interventions qui ont été données lors d'un séminaire que nous avons organisé avec l'Institut Iliade, un séminaire d'histoire qui a duré une journée sur l'héritage.
Qui s'est déroulé à l'Institut universitaire.
Aux origines de l'Europe. Et donc, il y a eu donc Aristide Lecat, je n'ai pas tous les noms en tête, on me pardonnera, mais je pense qu'il y a Rémi Soulier, il y a Bernard Riault, on a eu l'ami Guggenheim.
Oui, Sylvain Guggenheim.
Et d'autres, et ils me pardonneront si je les ai oubliés. Donc, mais tous leurs articles seront publiés au fil des numéros. Et donc là, on les met par ordre chronologique. Donc sur l'héritage indo-européen. Alors c'est compliqué parce que cette histoire, ça repose sur des reconstructions linguistiques, archéologiques, génétiques. La paléogénétique aujourd'hui.
La paléogénétique a ouvert de nouvelles perspectives récemment.
Et donc c'est vrai que c'est très peu connu, cette population migratrice qui a diffusé une langue, certes, mais surtout aussi une vision commune.
Dans une grande partie de l'Eurasie. Ce qu'avait montré Georges Dumézil.
Dumézil avec la représentation médiévale, très brillamment, avec la
trifonctionnalité qui perdure d'ailleurs, comme l'a montré Georges Duby, dans l'époque médiévale, dans l'imaginaire médiéval, l'imaginaire chevaleresque. Dans une Europe qui est devenue, bien plus tard, qui est devenue chrétienne.
Oui, et ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cet article, c'est de montrer que finalement, c'est la permanence, si vous voulez, de cet héritage indo-européen en Europe. Alors, n'en déplaise à beaucoup aujourd'hui, l'Europe n'est pas forcément... Bon, il y a eu des migrations, bien évidemment, mais on s'aperçoit que le fond européen...
Il y a eu une migration originelle qui a été celle, justement, des groupes indo-européens au cours de l'âge du bronze, depuis l'Inde du Nord jusqu'à l'Irlande, et c'est ainsi que s'est constitué un certain stock humain et culturel sur lequel...
Mais c'est une expansion lente.
C'est fondé.
Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une expansion assez lente. Donc, Aristide Lecat explore les différentes hypothèses d'origine. Donc, l'origine des steppes, la Ponto-Caspienne, et puis avec les...
Aujourd'hui, à la suite de Maria Tsimboutas, on admet plutôt que c'est dans les steppes du nord de la mer Noire
que se trouve le principal
foyer d'expansion. Alors, il y a d'autres hypothèses. Il y a une hypothèse qui remonte vers le nord, vers la Baltique. Pendant longtemps, du simple fait de l'expression indo-européen, on plaçait le foyer d'expansion beaucoup plus à l'est, mais aujourd'hui c'est en grande partie abandonné. Et ces pulsions migratoires, elles ont été d'une ampleur colossale, puisque on arrive jusqu'à des communautés comme les Tocariens, qui vont s'installer dans l'ouest de la Chine, et qui sont là... à l'époque des débuts de l'Empire des Han.
En tout cas, c'est la construction du monde structuré tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie des articles qu'on appelle les articles Varia, si vous voulez, dans le journal. Alors, vous parliez tout à l'heure des pays baltes. On a également un article, alors là, c'est vraiment sur un sujet assez méconnu.
Oui.
L'article est intitulé « L'appel de la forêt » et elle traite de la guérilla anti-soviétique dans les pays baltes.
Les frères de la forêt.
Voilà, donc, les frères de la forêt. Et c'est la guérilla dans les pays baltes après la Seconde Guerre mondiale. Où des milliers de combattants baltes, lituaniens, estoniens et lettons, se sont mené une guérilla anti-soviétique.
Et c'est une guérilla qui a sévi jusqu'au début des années 50.
Oui,
malgré la répression soviétique.
Le dernier était planqué jusque dans les années 80.
Ah oui, ah oui.
Et le KGB lui courait encore après. Bon, il était planqué dans une cabane, dans un petit village, etc. Oui. Mais je crois qu'il est mort en 78.
Je ne pensais pas que l'affaire allait durer aussi longtemps.
Et voilà, il était bon, il menait une vie de, il était pêcheur, mm-hmm. Et le KGB a essayé quand même de l'attraper et finalement il est mort noyé en leur échappant. Et il est mort dans le fleuve en 78, hein, 27 ouais. ans de 78, et il a été découvert.
Et c'est une résistance qui, bizarrement, n'a pas du tout été médiatisée en Occident.
Non, non, ils espéraient un soutien occidental qui voilà. n'est bah, jamais oui, venu, oui. bien évidemment.
Et on a bien vu ce qu'il en était en Hongrie en 56 ou en oui. Pologne en 56. L'Occident
exactement.
Ne voulait pas remettre en cause l'ordre établi à partir de Yalta.
Et donc, c'est vrai que beaucoup de ces hommes aussi, il faut le dire, avaient combattu sous l'uniforme allemand.
Oui, parce que l'armée allemande a été perçue comme une libératrice
oui.
quand elle est arrivée ben, voilà. en 41 dans ces régions
exactement.
Où avait sévi le régime soviétique stalinien.
Et c'est vraiment
c'est la même chose.
C'est vraiment une guérilla de survie.
Il s'est passé la même chose en Ukraine, hein, quelque chose de comparable dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Mais le retour à l'indépendance de ces pays baltes, quand l'URSS s'est effondrée, ça a été l'occasion d'une reconquête de toute cette mémoire, de tout ce passé-là, parce que ces résistants-là, aujourd'hui, sont honorés comme des modèles
dans les pays baltes,
Lituanie, en Lettonie.
Tout à fait, il y en a un qui, je ne sais plus comment il s'appelle, dont on a retrouvé les restes il y a peu de temps.
Le micro.
Oui, on a retrouvé ses restes oui. il y a peu de temps. Mmh. Et il a eu le droit à des funérailles, des
d'accord.
funérailles nationales.
Ah oui. En effet.
J'ai
oui.
plus son nom là. J'ai l'article sous les yeux, mais il faudrait que je le relise.
Et donc il s'appelait
Athanas Krogelis, dit le Terrible. C'était un type qui avait une tronche, si on peut dire, incroyable. Il avait les cheveux très longs.
Oui.
Il avait les cheveux très longs et le KGB l'a retrouvé. Il s'est suicidé pour pas être attrapé. Et on a retrouvé donc ses restes dans un cimetière de Vilnius. Et voilà, en 2019, on lui a rendu un hommage national.
Mais c'est tout à fait utile de choisir ce genre de sujet. Et moi, je suis prof de la presse historique depuis des dizaines d'années. Et nulle part, j'avais trouvé jusque-là un article sur les frères de la forêt baltes.
Oui, mais il y a très peu...
On connaissait vaguement l'existence. Mm-hmm. Maurice Bardèche, dans La Défense de l'Occident, avait évoqué justement ces mouvements de résistance, mais c'était quand même l'inconnu total pendant très longtemps.
Oui, il y a très peu,
une
bibliographie qui est très réduite. Hein. Je crois qu'on
oui,
va avoir deux, trois bouquins traduits en français.
Oui, puis la barrière de la langue... avec les langues baltes, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Alors, il y a un autre sujet d'histoire politique que vous abordez et qui me paraît d'une très haute importance. Ce sont les conditions dans lesquelles le Front populaire, le Frente Popular espagnol, l'a emporté au début de 1936 sur le plan électoral. Et là, vous avez un article qui analyse très précisément les fraudes aujourd'hui reconnues, nombreuses, qui se sont produites pour permettre la victoire de ce que l'on pouvait appeler en France le Frente Crapular.
Le Frente Crapular, c'est ça.
Et ça, c'est un point important parce que nous arrivons bientôt au 90e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Espagne au mois de juillet prochain, le déclenchement de la guerre civile espagnole, et il sera utile de refaire enfin le point sur la question. Il y a déjà eu un énorme travail qui a été réalisé par des historiens espagnols comme Pio Moa, par exemple, ou alors comme historien français comme Arnaud Imatz. Le silence demeure dans une large mesure sur les turpitudes du Front populaire,
oui, surtout que c'est
et sur ses responsabilités,
voilà,
surtout
c'est la genèse, hein, finalement.
dans le déclenchement de la guerre civile.
C'est la genèse de la guerre civile. C'est un article écrit par l'ami Michel
Festivi.
Qui a produit
ces dernières années de nombreux ouvrages,
de nombreux bouquins,
consacrés à la guerre d'Espagne et qui sont.
Ces deux derniers, hein, il en a un sur Franco et l'autre les griffes de Staline sur l'Espagne républicaine, où il montre comment les staliniens.
Il a fait une biographie de Franco. Il parle effectivement de comment le Comintern de Staline s'est imposé dans le camp républicain. Et il a tout récemment publié quelque chose sur l'histoire des phalanges espagnoles.
Oui, également. Mais bon, c'est un collaborateur régulier
la phalange de José Antonio et ensuite la phalange espagnole traditionnaliste que Franco a installée pour constituer le support politique de son régime.
Donc, cet article, c'est intéressant, cet article, c'est que ça marque vraiment comment d'abord ces élections de février 36 sont marquées par des fraudes, des pressions, le tout dans un contexte de violence politique. Donc, c'est pas une victoire vraiment électorale, c'est aussi une manipulation du processus, mais parce qu'on est déjà dans un pays dont la démocratie est très fragilisée. Il y a une instabilité politique chronique, une alternance qui est difficile, donc tout le monde se radicalise.
Et l'extrême gauche n'en était pas à ses débuts.
Non.
Puisqu'en 1934,
il y a déjà des insurrections.
Elle avait organisé une insurrection dans les Asturies lors de la victoire électorale. Lors de la victoire électorale des droites.
De la droite en 1933. Donc il y a vraiment un refus du jeu démocratique classique.
De la CEDA, de Gil Robles. Oui.
Le climat est vraiment...
Voilà, revenir sur ces questions-là et sur cet épisode-là est important, parce que ça fait partie aussi du discours correct en matière d'histoire, l'idée reçue élémentaire selon laquelle il y a d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, les pauvres victimes républicaines et puis les insurgés fascistes de Franco. Les choses sont quand même autrement complexes.
Comme ça, et bon, il y avait une violence, il faut le dire aussi,
bien sûr.
On n'est pas dans le monde.
Bien sûr, mais c'est une violence, on le voit notamment au niveau de la phalange, avant le déclenchement de l'insurrection nationale de juillet 36. C'est une violence qui est une violence de légitime défense. Il y a davantage de morts du fait des attentats anarchistes et d'extrême gauche que du fait des phalangistes.
Oui. Et comme celui qui avait été assassiné, comment il s'appelait?
Calvo Sotelo, qui est assassiné en juillet 36. C'est un petit peu l'élément déclencheur de l'insurrection nationale qui va démarrer au Maroc le 18 juillet 1936.
Bon, de toute façon, je pense que nous en parlerons dans les prochains numéros.
Oui, parce que là,
la guerre d'Espagne.
Et puis la matière est riche. Il y a notamment des travaux récents qui ont été réalisés sur la répression franquiste après la guerre, qu'on a présenté souvent comme une extermination générale des opposants. Et il y a un travail très considérable qui a été accompli par les historiens espagnols qui sont vraiment allés dans les archives et qui ramènent les choses à des chiffres beaucoup plus modestes que ceux qui étaient généralement admis. Alors, il y a un article aussi en matière d'histoire politique sur le faisceau. le fascisme, un fascisme à la française.
Oui.
Et ça, c'est, ça aussi, c'est un Alors, mérite c'est pas... de votre revue. C'est un sujet qui est parfaitement, parfaitement inconnu.
Ben, c'est l'aventure de
Georges Valois.
C'est l'aventure de Georges
voilà,
George hein. Valois qui effectivement.
Et les gens connaissent Doriot, Déa, les néo-socialistes ou le PPF ou le francisme de Marcel Bucard, mais le faisceau n'a pas non plus laissé de traces
ensuite. Non, il n'a pas laissé un grand souvenir,
considérable.
Même si je crois qu'il y a un cercle Georges Valois qui existe. Oui. Ce qui est intéressant, bon, c'est une aventure politique éphémère. Hein,
oui, tout à fait. Oui.
Mais qui, bon, et puis qui est indissociable aussi de son fondateur. Mais,
qui témoigne d'une époque.
Mais qui témoigne, voilà, qui témoigne d'une époque. Bon, bah, son fondateur, c'est Georges Valois, qui est un transfuge de l'Action française. C'est un ancien combattant. Et il crée très tôt, c'est pas un suiveur non plus. Il crée très tôt ce mouvement. Il le crée en novembre 1925. Donc c'est ça qui est intéressant.
Il y a seulement 3 ans que Mussolini est arrivé au pouvoir
en Italie. Il fait bien évidemment des voyages en Italie, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que ces désaccords commencent à naître avec l'action française. Et son positionnement, c'était ni droite, en gros, ni droite, ni gauche.
Ni droite, ni gauche, c'est voilà, ça. C'était, droite sociale. Ouais.
Non, il essaie de... Bon, il avait un journal, je ne sais plus comment s'appelait son journal. Bon, il n'a pas... C'était véritablement ça a été très, très, très précaire. Il y avait, c'est comme toujours, sa réhabilité, finalement, c'était avec l'Action française, parce que on avait vu des militants du faisceau donner l'assaut au siège de l'Action française. Donc, vous voyez, ça, c'est toujours.
Des divisions récurrentes.
Des divisions récurrentes dans nos milieux. Ouais. Hein, Léo Daudet le qualifiait de couard. Donc voilà, tout ce beau monde. Et il a eu une fin de vie aussi pour un fasciste qui est assez étonnant, parce que bon, en 41, il se rend à Casablanca pour créer un groupe clandestin. Il a été arrêté, il a été renvoyé en France, mais il a été arrêté en 44 pour avoir rédigé des brochures clandestines, et il est déporté à Bergen-Belsen, et où il va mourir en février 45.
Ça, donc un fasciste patriote.
Un fasciste, oui, on peut.
Français.
Oui, moi, ça me fait penser, bon, c'est comme de la Roque, si vous voulez,
oui,
qui s'est retrouvé lui aussi
de la Roque,
interné dans un camp de
Croix de Feu, que l'on a longtemps présenté comme un suppôt de Hitler, mais qui était un nationaliste français tout à fait classique.
Mais bon, il a quitté assez rapidement le champ politique, et il essayait de développer au niveau économique, c'était l'école économique du distributisme, et il a essayé d'explorer donc cette troisième voie, également dans le sillage de l'encyclique Rerum Novarum
de Léon XIII,
et il voulait... défendre le camp des producteurs face à un état technique fort toujours, mais voilà, qui élabore des techniques nouvelles pour obtenir d'eux le progrès par la science et selon la justice.
Alors, vous avez aussi une rubrique « Autopsie d'une bataille ».
Oui.
Et là, là encore, tout ça paraît tout à fait original. Vous évoquez le combat des Abrets.
Oui.
En avril 1354.
Alors, pareil, on
et alors là, qui est largement méconnu, si ce n'est inconnu.
Oui, mais pourtant, c'est véritablement, à partir de ce moment-là, c'est vraiment l'affirmation de la Savoie. C'est à partir de ce moment-là que la principauté savoya acquiert une cohérence territoriale.
Oui, mais c'est une histoire totalement méconnue qui s'inscrit pas dans le roman national français.
Non plus, et puis,
donc c'est un sujet tout à fait original, et c'est tout le mérite de votre revue de le mettre en lumière.
Voilà, donc sur ces batailles-là, si vous voulez, pareil, comment dire, le but n'est pas forcément de décrire la bataille minute par minute. On ne fait pas d'histoire militaire.
Mais sa signification
historique globale. Ce sont des batailles qui ont souvent fait tourner, des petites batailles qui ont entamé un tournant dans l'histoire du pays ou tout simplement dans l'histoire d'une région. Et puis c'est à partir de ce moment-là que... comment dire, donc c'est, oui, c'est quand même 70 ans de guerre entre la Savoie et le Dauphiné.
Le Dauphiné, oui.
C'est quand même pas mal.
Oui, on a du mal à imaginer tout ça, d'ailleurs.
Oui.
Tellement que la familiarité aujourd'hui de notre carte de France telle qu'elle est domine. Donc,
voilà, donc la victoire des Abrais. Alors, ce qui est amusant aussi, je trouve, c'est de retrouver. On essaie de retrouver des photos des lieux de la bataille. Bon, il y a souvent des endroits où on se retrouve la bataille. Aujourd'hui, ce sont des barres de HLM.
Oui,
Et puis pour ces petites batailles, c'est également retrouver de l'iconographie. On peut retrouver une iconographie de la bataille des Abrais, c'est absolument c'est absolument impossible. D'ailleurs, en tête, j'ai été obligé de mettre finalement. J'ai mis une image de la bataille de Cassel. Les lecteurs me pardonneront, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à Cassel, on avait le comte de Savoie, le comte de Genève et le dauphin. Tout le monde était réuni pour aller se battre
Les villes flamandes.
Contre les Flamands. Et une fois que la bataille était terminée, chacun est rentré chez soi pour continuer à se battre contre l'allié d'avant. Voilà donc pour la rubrique autopsie d'une bataille.
Nous avons survolé le numéro dans son ensemble. Alors venons-en maintenant au sujet de votre dossier, intitulé « La perfide Albion ». Alors on imagine que c'est un dossier qui n'a pas particulièrement anglophile.
Non.
Mais dans votre éditorial s'intitule quand même « L'Angleterre, notre meilleur ennemi ».
Oui.
Alors, bon, là, il y a une certaine nuance qui intervient. Qu'en est-il de cet antagonisme franco-anglais ? Quelles sont ses origines ? Comment il s'est installé dans la durée ? Est-ce que d'autres scénarios pouvaient être possibles ? En tout cas, il était bien admis dans l'esprit des Français pendant très longtemps que l'anglais, c'était l'ennemi héréditaire.
On peut dire que c'est l'ennemi héréditaire, parce que ça
Jeanne d'Arc,
ça remonte à
Napoléon,
très loin.
À Fashoda, voilà. Etc.
Mais comme le dit Richard de Sèze, qui nous a fait l'amitié d'un petit papier en guise de conclusion du dossier, hein, il vient de publier.
Oui, qui n'est pas un papier spécialement anglophile.
Non, mais bon, qui n'est pas un papier non plus totalement historique. Si vous voulez un petit billet d'humeur, il vient de publier Richard de Sèze, de vrai gentleman chez Slavator. Et voilà, il dit, je vais le citer, j'ai appris très tôt à ne pas aimer les Anglais. Les enfants ont un grand sens de la justice et les histoires d'Irlandais affamés, de marins sabordés n'aident pas à installer l'idée d'une nation aimable. Alors ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée de faire un dossier sur le sujet. Bon, chacun a lu les carnets du major Thompson d'Aninos.
Oui,
voilà,
bien sûr.
Et cette espèce, et pour moi, c'est une affaire de famille, si vous voulez, franco-anglais. C'est pas forcément des questions d'intérêt ni de territoire, enfin, ça l'a été par certains moments, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond. Donc, comme je disais, c'est une affaire de famille, tout simplement parce que nous avons, on va l'expliquer, mais si on remonte à la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie, à partir de ce moment-là, on crée une famille commune.
Dont on célébrera l'anniversaire cette année. Hein,
tout à fait.
En 1066, donc là, on sera...
1066, on aurait dû calculer avant.
1066, on aurait dû calculer, c'est 40 ans de... Moins que 40 ans de moins que 66. Hein,
on va faire le calcul.
Ça sera 1000 ans moins 40 ans. Voilà.
Et donc, c'est
960e anniversaire de la bataille d'Hastings.
De la bataille d'Hastings. On va revenir, on va en parler. Mais si vous voulez, ce qui m'intéressait, voilà, c'est ça. C'est pourquoi. C'est pas forcément une question donc, de frontières. Hein, on n'a pas de frontières communes. Enfin, si, au milieu de la Manche, si on peut le dire aujourd'hui. Pourquoi cet antagonisme ? pour moi, c'est parce que nous avons donc cette histoire commune, cette noblesse commune. Alors, c'est une histoire commune, c'est une histoire de famille pour ceux qui sont aux commandes, hein, bien évidemment. C'est entre le paysan du Cantal et le paysan gallois, il n'y a pas forcément une affaire de famille. Mais c'est surtout cette rivalité, c'est le passage d'une fusion médiévale, puis à une réalité moderne. Et ce sont deux modèles politiques, économiques, militaires qui finissent par s'opposer à l'échelle mondiale. Alors, j'ai pas voulu faire un dossier chronologique, si vous voulez. On n'allait pas commencer par. Alors, on commence par la Normandie, hein, bien évidemment. Mais après, j'allais pas dérouler Jeanne d'Arc, la guerre de Cent Ans, Napoléon, etc.
Oui, qui sont des sujets déjà largement connus. Oui.
Bien évidemment, ce sont des moments clés. Mais voilà, ce qui m'a intéressé, c'était de dégager les grands moments. Donc, d'abord, la fusion. Hein, la fusion avec cette création. Alors, l'auteur emploie le terme d'empire transmanche. Alors peut-être que le terme d'empire est un peu.
Ben c'est l'empire Plantagenet.
Non, on parle là de.
Ah non, du duché de Normandie.
Et la royaume de
Guyenne. Au départ, d'accord.
Au départ. Après, effectivement, c'est l'empire Plantagenet. Donc là, c'est la contradiction, cet empire impossible
oui, à tenir. Oui, en termes géopolitiques. C'est un empire incertain. Oui.
La séparation véritable. Qui intervient à la fin de la guerre de Cent Ans, également une séparation religieuse qui intervient. Et puis cette rivalité globale, c'est vraiment deux systèmes où là on a vraiment, l'article s'appelle les ennemis naturels, parce que là on est vraiment dans une guerre de système. Et puis après on finit avec la fin du 19e, début 20e, où là, effectivement, il y a une alliance, mais qui est plutôt une alliance contrainte, qui est une. On a un ennemi commun à ce moment-là, donc on a une coopération forcée, mais ça n'empêche pas les petits coups de poignard.
Mais on a un ennemi commun, un ennemi potentiel qui est l'Empire allemand.
Qui est l'Allemagne, oui.
Mais en même temps, pour les Anglais, il y a un autre ennemi qui est l'Empire russe. Avec lequel ils se trouvent confrontés dans le contexte du grand jeu eurasiatique. Ça équilibre quelque peu les choses. C'est tout le génie de Delcassé, notre ministre des Affaires étrangères, d'avoir pu conduire à l'entente cordiale donc de 1904, mais c'était pas gagné d'avance. Hein. On est seulement 6 ans après Fashoda. Humiliation des Français au Soudan, ruine des espoirs français de bâtir un espace africain depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Et Dieu sait que la reine Victoria n'est pas particulièrement appréciée en France à cette époque, ce qui n'arrangera pas ensuite la guerre des Bourgs, à propos de laquelle l'opinion française se mobilisera massivement en faveur du président Kruger et des insurgés bourgs.
Oui, mais si vous voulez, on peut revenir à la Normandie.
Retournons à la Normandie.
Retournons à la source. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est que la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie, le but, c'est pas de conquérir un territoire supplémentaire. C'est d'abord de faire respecter une parole donnée. Et puis, donc, c'est une victoire militaire, certes, mais c'est la création d'un espace politique anglo-normand qui est profondément intégré. Et alors, il y a un fond commun quand même. Hein, on a des racines communes chez les Normands et chez les Anglais. Des racines qui sont germaniques ou nordiques. Il y a une religion commune. Hein, c'est déjà le christianisme. Et puis, des structures sociales qui sont finalement assez proches, hein, basées sur la féodalité, la loyauté personnelle. Donc, cette conquête va fonctionner parce que les sociétés sont déjà compatibles. Et ce qui est intéressant, c'est que Guillaume, lui, normand, va véritablement créer l'Angleterre. qui étaient, c'était des petits royaumes, finalement, de tout petits royaumes assez.
Oui, c'est ça, les royaumes, les royaumes anglo-saxons.
Voilà, et lui, il va vraiment.
Divisé.
Il va créer donc cette dynastie anglo-normande, et l'Angleterre va basculer, là, à ce moment-là, dans l'espace politique continental. Alors, c'est vrai que la domination, elle a été brutale, hein. Il y a eu quand même pas mal de massacres, beaucoup de répressions violentes. On a remplacé complètement les élites anglaises par des Normands. Mm-hmm. Les terres ont été confisquées. Mais en même temps, c'est la naissance d'un État moderne, centralisé, avec un nouvel État structuré autour d'un roi, d'une cour et d'un système féodal.
C'est un modèle étatique
c'est
nouveau.
C'est un modèle étatique
à
nouveau.
Du duché de Normandie. Oui.
Et même au niveau de la langue. Oui. La langue, il faut savoir qu'à peu près 30% des mots anglais aujourd'hui sont d'origine franco-normande. Mmh. Hein, c'est assez étonnant. Je pense que nous, dans la langue française, on doit avoir moins de mots d'origine anglaise.
Voilà.
Peut-être moins aujourd'hui, mais encore.
Encore que le franglais d'aujourd'hui comporte des succès, mais c'est pas tellement le franglais, c'est le franco-américain.
Et puis, comment dire, c'est aussi la culture, hein, une architecture, une littérature.
Il y a un style anglo-normand bien identifié, qu'on retrouve à la baie de Jumièges.
Voilà, et qu'on retrouve également en Angleterre avec, avec la cathédrale de Durham ou des choses de ce genre. Donc c'est à ce moment-là. Cet héritage culturel commun va se créer.
Mmh. Mais alors, en même temps, derrière, c'est l'Empire Plantagenet du fait des aléas d'Aliénor d'Aquitaine, hein, qui épousait le souverain Plantagenet. Et là, c'est un véritable empire qui s'étend depuis les Pyrénées jusqu'à l'Écosse et qui est un défi formidable. Pour le royaume de France, dont le cœur du réacteur, c'est le petit domaine capétien.
Oui.
Et alors là, il va falloir un grand souverain, en l'occurrence Philippe Auguste, pour réussir à maîtriser cette situation.
Cet empire plantagenet, mais qui n'était pas non plus un espace politique très unifié. Hein.
Ah,
c'était aussi
sûr.
Un conglomérat de petits fiefs royaux. Et, je sais pas, je crois que c'est Henri II d'Angleterre. Il réunit l'Angleterre, la Normandie, l'Aquitaine, l'Anjou et le Maine. Mais il n'y a pas d'unité administrative forte. Donc. Et puis, il faut savoir que ce roi d'Angleterre, il est souverain chez lui, mais il est vassal du roi de France sur le continent.
C'est ça.
Hein, c'est ça le gros problème. Donc, donc, il est intégré culturellement, mais cette dualité féodale fait que ça devient vite ingérable. Et puis, la conquête de la Normandie par Philippe Auguste met fin à cet espace...
En 1204, met fin à cet espace
commun. Hein. Mais c'est la famille, c'est la même famille, hein. Ils parlent la même langue, ils sont tous cousins, on possède des terres de chaque côté de la Manche, donc en gros c'est l'histoire de cousins qui se disputent l'héritage du grand-père.
Et puis c'est une histoire familiale qui conduit aussi à la guerre dite de 100 ans, hein, puisque une fille de Philippe le Bel a épousé Édouard II d'Angleterre. Et à partir de là, il y a une prétention des Anglais sur le trône de France. Meurent les fils de Philippe le Bel qui lui ont succédé, Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel. Et on a à ce moment-là le conflit dynastique. Qui débouche sur ce qu'on appellera la guerre de 100 ans.
Mais conflit dynastique qui se comprend, si vous voulez, parce que finalement, le prétendant au trône de France, son nom, malheureusement...
Philippe de Valois, Philippe VI
non,
de Valois.
Le petit roi anglais.
Alors, le roi anglais, c'est Édouard...
c'est un Édouard, je ne sais
Édouard
plus...
Édouard III. Édouard III, qui va être le prétendant.
Il est tout de même petit-fils de Philippe le Bel, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Donc, légitimement, il pouvait se sentir...
Oui, mais c'est comme ça qu'on va inventer la loi salique. Parce qu'il est petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Et donc, c'est l'ordre de succession... masculin qui va prévaloir à cause de la loi salique.
Exactement. Et donc, à ce moment-là, la guerre de 100 ans, on va pas la refaire. Mais cet empire plantagenêt, sa disparition, si vous voulez, c'est ce qui va créer là véritablement c'est le moment clé de la séparation politique. Hein. Il y a un recentrage insulaire chez les Anglais, chez nous. En France, il y a une consolidation monarchique.
Français, oui, il y a une consolidation monarchique, oui. Mm. C'est-à-dire que les Anglais ont fourni un peu le modèle au départ avec une organisation militaire nouvelle, avec une gestion aussi de la fiscalité bien organisée.
Bah, oui, ça très...
La monarchie capétienne, en cette fin de guerre de 100 ans, elle va s'adapter à ces nouveautés et c'est ça qui va lui donner le surcroît de puissance nécessaire pour l'emporter. Vous évoquez la bataille de Formigny ou la bataille de Castillon. Ce sont les compagnies d'ordnance du roi Charles VII et puis c'est l'artillerie des frères Bureau qui va faire la différence sur le champ de bataille de Castillon.
Oui. Et donc après on a un article également sur la guerre de 100 ans qui est écrit par Julien Adam. Julien Adam, il a écrit un livre qui s'appelle Castillon, la France gagne la guerre de 100 ans, et il nous fait parce que guerre de 100 ans, on résume souvent la guerre de 100 ans aux défaites.
Je vous arrête un instant parce qu'il y a une communication de la radio.
Très bien.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Alors, donc, nous retrouvons la guerre de 100 ans, à l'issue de laquelle la France est finalement victorieuse. Le dauphin de Bourges, Charles VII, est réellement roi de France. Le match se termine par la reconquête de la Guyenne et de Bordeaux. Bon. Et ensuite, les choses se calment quelque peu, hein, puisque notamment avec l'entrevue de Piquigny entre Louis XI et le roi d'Angleterre, que nous a rapporté Comines, il y a une certaine stabilisation des choses. La paix est de retour et le royaume de France va pouvoir continuer le développement auquel il était promis.
Oui, mais d'un autre côté aussi, l'Angleterre, on a intitulé... je parlais juste avant qu'on soit interrompu par la communication, l'article sur la guerre de 100 ans, c'est qu'on résume souvent la guerre de 100 ans à des défaites françaises, que ce soit Azincourt, Crécy, etc. Mais en réalité, il y a eu de victoires françaises et pas forcément Castillon, pas forcément la...
Celle de Cocherelle, remportée par Duguesclin.
Tout à fait. Donc l'article suivant, donc on l'a appelé l'adieu au continent. C'est-à-dire que effectivement, c'est en gros comment la perte de la France a fabriqué l'Angleterre. C'est-à-dire que l'Angleterre va se recentrer sur l'île, va véritablement devenir une puissance insulaire et finalement décide de combattre la France sur un autre terrain.
Oui, et puis surtout les Anglais vont prendre conscience très clairement à ce moment-là de leur situation insulaire et des conditions que cela leur impose, c'est-à-dire qu'ils vont faire le choix de la puissance maritime qui porte en elle la puissance commerciale. C'est l'époque du roi Henri VII Tudor où les Anglais vont jeter les fondations de leur puissance ultérieure et notamment de la primauté donnée à la mer.
Et à
la puissance navale.
Ils se rendent compte de l'avantage politique, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de frontière terrestre, donc ça ne nécessite pas d'une armée permanente très lourde. Alors qu'en France, on a des menaces terrestres qui sont constantes, donc
c'est toutes les frontières.
C'est un vrai poids. Donc la mer, c'est un refuge, c'est un levier de puissance. Et puis bon, il y a le côté religieux aussi qui n'est pas, qui est aussi à prendre en compte. Hein. Ça devient donc une puissance maritime protestante. Très commerçante également, c'est-à-dire qu'on se projette, pas forcément avec des forces armées, mais avec des compagnies commerciales qui, elles, sont armées d'ailleurs. Donc c'est pas forcément une rupture brutale, hein. C'est un enchaînement de transformation.
C'est une espèce d'évolution mécanique qui était inéluctable en fait. Hein.
Bon, il faut pas négliger. Je reviens sur la religion qui devient vraiment un facteur majeur de différenciation. Oui. Et puis surtout. L'article, pareil, hein, nous sommes, ça évoque les relations entre 1453 et 1815. Hein, on est vraiment très très large. En France également, c'est un modèle, ce sont deux modèles d'État qui sont opposés. En Angleterre, on a eu la glorieuse révolution qui a donné État parlementaire. Nous, c'est une monarchie absolue. Ils ont une fiscalité efficace. Nous, c'est une fiscalité un peu erratique, assez inefficace.
Ils privilégient l'impôt indirect sur la taille, taille royale typique de l'impôt français.
Donc, on a vraiment deux modèles politiques distincts.
Et avec des tentatives de la France au XVIIe siècle de profiter des difficultés de l'Angleterre à travers la Révolution. Qui débouche sur la mort du roi Charles Ier, la dictature de Cromwell, ensuite la deuxième révolution, la Glorious Revolution, qui va renverser Jacques II Stuart. La France, à ce moment-là, à l'époque de Louis XIV, cherche à prendre le dessus et l'ascendant sur l'Angleterre. Et d'ailleurs, Jacques II, quand il est chassé, il vient se réfugier en France, à Saint-Germain, accueilli par Louis XIV.
Jacques II, qui fera l'objet d'une prochaine émission sur passé présent, d'ailleurs.
À propos de Jacques II.
À propos de Jacques II, oui.
Oui, parce que vous avez un ouvrage... j'ai oublié son pseudo.
Qui est paru chez Godefroy de...
Oui,
chez
tout
Godefroy
à fait.
De Bouillon, il est venu ici d'ailleurs.
Tout à fait,
en parler. Donc voilà, donc on a vraiment deux États qui se construisent en opposition. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé. L'administration, alors il faut rapporter ça bien évidemment à la population, hein. Mais imaginez, c'est toujours comme ça d'ailleurs aujourd'hui, l'administration en France c'est 40 000 officiers, alors qu'en Angleterre c'est 1200 dans l'Angleterre élisabéthaine. Déjà la grosse administration.
Il y a une bureaucratie royale en France déjà présente, oui.
Et alors, au fur et à mesure que les pays vont évoluer chacun de leur côté, on va voir là véritablement comment cette rivalité s'étend au monde entier.
Voilà, c'est ça.
À chaque fois, d'ailleurs on le voit, à chaque fois qu'il s'agit de faire pièce à la France, l'Angleterre va s'allier une fois contre Charles Quint, une fois avec Charles Quint, à chaque fois qu'il faut damner le pion à la puissance française, on va se ranger du côté des ennemis français. Donc je disais, en France on a un État centralisé, terrestre, administratif, alors que en Angleterre c'est un modèle qui est beaucoup plus souple, hein, qui est maritime, qui est financier, qui est parlementaire. Donc ce sont vraiment des différences structurelles
qui est ouvert sur un monde à conquérir. C'est ça, la puissance navale permet cela. Hein, les Anglais vont aller damer le pion aux Portugais et aux Hollandais en Asie. Ils vont développer leur colonie d'Amérique du Nord. Et tout cela d'une manière très, très pragmatique et très systématique.
D'ailleurs, quand je parle d'ennemis naturels, C'est pas de moi la formule, hein. C'est de Lord Ster, qui était l'ambassadeur britannique à Paris, qui disait « Le penchant naturel de ce royaume, il parle de la France, est contre nous, ils nous considèrent comme leurs ennemis naturels et nécessaires. »
Et nécessaires.
Évidemment, en politique, il faut toujours avoir... avoir des ennemis. Donc voilà, c'est un article assez, je pense, pour moi c'est l'article pivot du, où on explore vraiment en profondeur cette hostilité, ces deux modèles antagonistes avec la France qui se voit comme une héritière de Rome, hein, mais pas la Rome conquérante, mais la Rome de Virgile qui porte les bienfaits de la civilisation latine, alors que ben, l'Angleterre, elle, m'a fait du commerce, quoi. fait du commerce. Et donc on décrit toutes les stratégies d'étranglement qui ont été et toutes les mécaniques de violence qui ont été fomentées par les Anglais.
Par les Anglais face à leurs.
Par les Anglais d'ailleurs le terme
face à leurs rivaux du continent.
Le terme de perfide Albion, hein, alors on l'attribue à Bossuet.
Ah oui.
Bon c'est à vérifier Donc cette stratégie dont nous ferons les frais dans tout l'Empire. Hein.
Ben oui, puis même dès le XVIIIe siècle, car les Anglais ont bien compris que la France était l'adversaire le plus menaçant à terme, étant donné ses ressources proprement continentales, mais aussi sa capacité à devenir une puissance navale. La France, avec Richelieu et Louis XIV, se pose aussi comme une rivale de l'Angleterre sur mer, et parfois en remportant certains succès. Parce que la France, il y a des arrières quand même beaucoup plus importants. La France, au début du XVIIIe siècle, c'est 20 millions d'habitants, et l'Angleterre, c'est 4 millions.
Oui.
Par exemple. Hein. Donc, il y a un potentiel là qui peut permettre de mettre en cause l'hégémonie britannique.
Alors, cette hégémonie britannique, par exemple, on voit comment ça s'est déroulé, en Amérique du Nord, principalement. La France en a fait les frais quand on s'est fait.
Mais la France aussi n'a pas mesuré du tout l'ampleur des enjeux au Canada et en Inde. C'est elle qui doit regretter. Les insuffisances dans ce domaine de la politique royale, et pas seulement royale d'ailleurs, on connaît la fameuse expression de Voltaire sur les arpents de neige du Canada qui ne servent à rien. On a perdu très gros dans cette affaire alors qu'on avait des atouts qui étaient considérables. On était aussi bien au Québec, en Nouvelle-France, au Canada, qu'en Louisiane, qui représentait à l'époque une partie considérable des actuels États-Unis.
Bien sûr, oui.
Là où les colonies anglaises étaient coincées entre les Appalaches et la côte atlantique.
Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, pour nous battre outre-mer, l'Angleterre n'a fait... par exemple, a toujours financé les coalitions continentales pour soutenir les Habsbourg ou les Prussiens. Ouais. Ça permettait de fixer les armées françaises. Hein. Donc là, c'est une stratégie je cite l'auteur de l'article, qui confine à l'obsession.
Oui, c'était diviser pour régner, ça a été toujours
Donc ça neutralise toutes les ressources financières françaises pour faire la guerre en Europe. D'ailleurs, il y a une formule de Pitt qui dit « j'ai conquis le Canada en Allemagne ». Donc là, tout est dit. Et puis, donc, la façon aussi de s'implanter dans Outre-mer n'est pas la même. L'Empire britannique, c'est un empire de circulation, ça commerce. On gouverne à travers les structures locales sans chercher forcément à les transformer. Donc c'est un pragmatisme efficace, ce qui n'est pas le cas, du royaume de France. Même la façon de lever l'impôt, c'est le Parlement qui vote, l'impôt. Donc on peut dire que c'est un impôt qui est, entre guillemets, plus consenti, vous voulez, qu'une monarchie absolue. Donc ça permet également plus de souplesse. Et puis l'Angleterre délègue la violence à ses compagnies commerciales et en tire les bénéfices sans en assumer la j'irais dire la responsabilité
mais
morale.
Et là les Français aussi bien au Canada qu'en Inde sont largement surclassés durant ce 18e siècle. Alors qu'ils ont quand même des moyens, on le voit sur le plan naval, surtout avec la politique menée par Choiseul de réarmement naval, on en a les résultats pendant la guerre d'indépendance américaine, c'est-à-dire que les Français surclassent, avec De Grasse et la Motte Picquet, les Français surclassent les Anglais sur mer. Durant cette guerre d'indépendance, ils prennent leur grande revanche de la guerre de 7 ans qui avait été désastreuse pour eux. Mmh. Et donc, sous le règne de Louis XVI, la situation semble s'inverser au point que on peut imaginer que les Anglais se sont félicités des difficultés dans lesquelles la France est enfoncée à la faveur de la Révolution.
Et alors, justement, on va arriver à la Révolution et aux Lumières. Ce qui est intéressant également, c'est que finalement, les deux modèles, enfin, au niveau de ce qu'on peut appeler les intellectuels de l'époque, les deux modèles se jalousent et voire s'admirent l'un et l'autre. Alors, c'est sûr que Montesquieu, quand il rentre de Londres, il note que l'argent est plus important que l'honneur ou la vertu.
En même temps, il se fait le champion du parlementarisme.
Voilà, il dit... Et pareil, Voltaire également.
Voltaire, dans ses lettres anglaises, il n'a pas de mots.
Oui, il fait de l'Angleterre une terre de liberté.
Pour le modèle anglais, bien sûr.
D'ailleurs, son livre aurait été censuré. Donc, voilà, donc il y a quand même une partie de l'intelligentsia française qui est plutôt...
Et puis ça commençait déjà sous la Régence. Le régent Philippe d'Orléans était manifestement anglophile. Et plutôt hostile à l'alliance traditionnelle espagnole. Donc, y a tout un courant pendant ce XVIIIe siècle de fond qui fait que l'Angleterre exerce une séduction certaine sur la France.
Alors voilà, donc ça c'est la partie, donc j'ai le... L'article pivot du dossier hein, sur ennemis naturels. Et après, nous avons deux autres articles. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, le 19e siècle. Donc, finalement, on voit que, bon, de Waterloo jusqu'à Fashoda, dont nous avons
19e
parlé.
19e siècle, de Waterloo à Fashoda.
Voilà.
Ça commence mal.
Alors, on coexiste.
Ça commence mal pour les Français.
Ça commence mal.
Avec l'échec.
Ça finit pas très bien non plus.
Avec l'échec de l'Empire.
Et donc, la France et la Grande-Bretagne, finalement, coexistent, sans faire la guerre, mais elles ne sont pas non plus...
Mais il y a des efforts, il y a des efforts de rapprochement à l'époque de Louis-Philippe. Déjà, la rencontre d'eux, il y a une tentative de rapprochement d'une première entente cordiale. Et puis ensuite, sous le Second Empire, alors que ça peut paraître surprenant, Napoléon III cherche les faveurs de l'Angleterre.
Oui.
C'est comme ça que nous nous embarquons dans la guerre de Crimée, pour les intérêts de l'Angleterre contre la Russie, à la faveur de la guerre... russo-turc, et c'est comme ça aussi qu'on fait le grand traité de commerce avec l'Angleterre en 1860. On s'engage dans le modèle en fait anglais, dans le modèle de révolution industrielle aussi de l'Angleterre. Donc là, les choses s'apaisent quelque peu.
S'apaisent, mais on a toujours quand même nous puissance continentale contre une puissance maritime, une culture de l'État contre une culture du commerce.
Et puis les Anglais ne nous en savent pas grand gré, puisque au moment de la guerre de 70, Il ressorte à Napoléon ses prétentions sur la Belgique, etc., pour ne pas s'allier avec lui face à la menace que représente l'Empire allemand de Bismarck.
Et puis il y a eu donc Fashoda.
Hein, Fashoda, dans 1898, hein, où la France est humiliée. Hein, Kitchener arrive d'Égypte avec son corps expéditionnaire qui vient de battre les mahdistes à Omdurman, près de Khartoum.
Kitchener, l'inventeur des camps de concentration.
Voilà. Le capitaine Marchand, qui commande une mission venue depuis l'Afrique de l'Ouest, arrive sur le Haut Nil à Fashoda. Mm. Alors l'espoir, c'est pour les Français de créer un axe Dakar-Mer Rouge, en gros, et les Anglais, eux, ils veulent créer l'axe Le Caire-Le Cap en Afrique orientale. Donc il y a forcément un conflit là. Mais les Français sont obligés de céder, ce qui déchaîne d'ailleurs une très grosse vague d'anglophobie en France.
Clémenceau l'explique pourquoi. Hein. Il dit la France ne peut avoir la pensée de se lancer dans une guerre européenne pour la possession de quelques marécages africains quand l'Allemand est campé à Metz et à Strasbourg.
Hein, oui.
On est en 1898.
En même temps, Clémenceau, dont les liens avec l'Angleterre sont certains aussi. Hein. C'est un homme politique qui, de ce point de vue-là, n'est pas forcément au-dessus de tout soupçon, hein, Clémenceau. Voilà, Fashoda, déjà, c'est vraiment un coup très dur aux relations franco-anglaises. La reine Victoria est détestée, caricaturée en France à l'époque, et il faudra attendre Édouard VII et 1904, l'entente cordiale, pour que les choses s'améliorent. Édouard VII, qui était bien connu à Paris, n'est-ce pas, où il venait faire la noce,
connu rue de Provence,
comme on disait à l'époque, et les choses là vont commencer à s'améliorer quelque peu, et puis sous l'influence également de Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, qui a bien vu l'opportunité, alors que la France avait déjà obtenu l'alliance franco-russe, de renforcer ce camp-là, puisque l'Angleterre avait aussi des craintes du côté de la Russie. Ouais. Mais de renforcer une éventuelle coalition anti-allemande.
D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est finalement c'est cette humiliation de Fashoda qui devient le moteur du rapprochement.
Oui, finalement, oui, c'est ça, oui.
Ouais. Vous avez des questions d'auditeurs, je crois.
Alors, on a une longue question d'auditeurs. Peut-on dire que les Britanniques ont eu des corps expéditionnaires et des armées coloniales en dehors de leur marine? Ils ont pallié les faiblesses structurelles de ces corps par l'usage du stratagème élevé au sommet, l'art de tromper, avec un mépris total de la vie humaine et de toute chevalerie. Alors là, on a un de nos correspondants qui est résolument anglophobe. Par exemple, l'opération suicidaire de Dieppe en 1943, où nombre de Canadiens ont été massacrés, on couvrait en effet la capture d'un radar côtier allemand installé sur la falaise proche. Concrètement, le renseignement et les services spéciaux ne sont-ils pas le principal élément de puissance de l'Empire, comme cela s'illustre par l'Égypte en France et par l'opération Minsmith de débarquement en Sicile? Tout ceci n'est pas issu du véritable centre de commandement qui reste la City depuis l'origine. Cet empire sous Élisabeth Ière avec Sir Raleigh a défini le contrôle des océans assurait le contrôle du commerce, donc la puissance hégémonique mondiale. Stratégie reprise et poursuivie par les États-Unis depuis la fin du XIXe siècle avec une remarquable continuité jusqu'à maintenant. Ben, je crois que voilà une analyse à laquelle on peut tout à fait adhérer. Hein. C'est toute l'idée de la puissance maritime qui est la grande idée de la géopolitique anglaise telle que l'a formulée Mackinder par rapport aux puissances continentales qui, avec la révolution des chemins de fer, reprenaient l'avantage par rapport à la puissance maritime océanique mondiale qu'avait été l'Angleterre. Mais c'est tout ça est effectivement ça montre bien que les Anglais ont été très vite bien conscients de la situation qui était la leur. Ils ont su regarder la carte du monde de manière très attentive et notamment ils ont pris le contrôle d'un certain nombre d'endroits clés, Gibraltar par exemple, l'Égypte avec le canal de Suez, les détroits de Malacca, les détroits malais. Ils ont vu bien en amont tous les endroits stratégiques qu'il était nécessaire de contrôler pour garantir leur hégémonie navale, hein, et, qui a duré pratiquement jusqu'au début du XXe siècle et même jusqu'au milieu du XXe siècle.
Et cette entente cordiale, finalement, c'est une réconciliation, c'est un échange, parce qu'il n'y a pas d'alliance avec cette entente cordiale.
Oui, mais il n'y a pas d'alliance.
Là, c'est moi qui vous pose la question.
Il n'y a pas d'alliance militaire précise prévue comme l'est l'alliance franco-russe à la même époque. Mm-hmm. Hein, en 1914, l'Angleterre n'est pas tenue par l'entente cordiale d'intervenir aux côtés de la France. Elle intervient, c'est à cause de la violation de la neutralité belge. Mmh. Là, c'est l'élément déterminant. Quand Bethmann Hollweg explique aux Anglais que la neutralité belge, ça n'est jamais qu'un traité, à savoir un chiffon de papier. Alors ça, évidemment, ils ne peuvent pas supporter ça. Et ils entrent en guerre contre l'Allemagne, pensant que cette guerre, d'ailleurs, serait beaucoup plus courte.
Beaucoup plus courte que prévu. Pour revenir un petit peu en avant, c'est finalement l'Allemagne qui va consolider cette entente. Avec, on pense notamment à la visite du Kaiser Guillaume II au Maroc.
Oui.
Ce qu'on a appelé le
coup de Tanger.
Le coup de Tanger, hein, qui était destiné plutôt à briser l'arrangement. Bon, alors ça, il y a eu un effet inverse, puisque les états-majors ont commencé à discuter.
C'est-à-dire qu'on a négocié avec les Anglais, il y a eu un troc, comme vous le disiez, entre le Maroc et l'Égypte.
Oui, c'est ça. L'Égypte en échange du Maroc.
La France avait des droits relativement anciens, une présence ancienne en Égypte, depuis l'ouverture du canal de Suez. Et les Anglais voulaient écarter la France de l'Égypte, ce qu'ils ont fait en 1880, quand il y a eu la révolte d'Arabi Pacha en Égypte. Et les Français, à ce moment-là, n'ont rien fait. Mm-hmm. Le gouvernement français est resté passif dans cette affaire. Et ensuite, on a négocié le Maroc. La France pourrait installer son protectorat sur le Maroc, contre les mains libres pour l'Angleterre en Égypte et le contrôle de fait du canal de Suez, qui était l'objectif stratégique majeur des Anglais. Parce qu'ils avaient bien vu, ils avaient tout fait pour saboter le projet du canal de Suez, notamment pour dissuader le public anglais d'investir dans ce projet. Puis ils se sont rendus compte que ça marchait finalement très bien et que ça représentait pour eux un enjeu, tout à fait décisif.
Hein. D'ailleurs, on l'a vu au début de la guerre, il n'était pas question de commandement intégré.
Ah non, le commandement unifié, ça vient seulement en 1918.
Hein. Oui.
Et puis surtout, au début, il y a un corps expéditionnaire anglais, et c'est seulement, 20 000 en 1916 que le service militaire obligatoire va être instauré en Angleterre. Mm-hmm. Jusque-là, ce sont que des volontaires, mais ils sont plus suffisamment nombreux. Hein. L'Angleterre, sa politique générale, sa stratégie générale, c'était la maîtrise de la mer, et puis une force expéditionnaire éventuelle, ponctuellement engagée dans tel ou tel endroit. Et évidemment, la guerre de 14, ça a été une expérience tout à fait différente. Hein.
Et finalement, cette entente ne résiste pas à la disparition de l'ennemi commun.
De l'ennemi commun allemand.
Allemand, oui.
Oui. Enfin, entre les deux guerres, on se rend compte après la guerre que des conflits d'intérêts sont évidents entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre, qui était très réticente par rapport au traité de Versailles, qu'elle estimait trop dur pour l'Allemagne. L'Angleterre qui condamne l'occupation française de la Ruhr en 1923. L'Angleterre qui va, pendant toute l'entre-deux-guerres, jouer le rôle de la gouvernante anglaise.
Oui, c'est ça. Alors, la France suit comme le
terme est un terme utilisé par les opposants au gouvernement français, qui considèrent qu'on n'a pas de liberté d'action, on n'a pas de souveraineté suffisante. Et en diverses circonstances, c'est quelque chose qui se vérifie assez facilement. Hein. Bon, bien sûr, on y pense à propos de Munich, quand Chamberlain fait le choix de l'apaisement avec Hitler, mais auparavant, avec l'Anschluss, les Anglais, ça les intéresse pas plus que ça. La remilitarisation de la Rhénanie en 36, c'est pas du tout leur problème. Et il y a un conflit aussi à propos de l'Éthiopie. Mmh. Les Anglais nous entraînent dans la politique des sanctions contre l'Italie de Mussolini à propos de l'Éthiopie, et ensuite ils retournent leur veste. Une fois que l'Allemagne devient éventuellement trop inquiétante, ils se retournent pour sauver les meubles avec l'Italie de Mussolini et pour s'en rapprocher. La gouvernante anglaise, c'est une expression un peu bizarre, mais qui correspond bien à une réalité durant cette période. Mmh.
Alors, ça nous amène
à la Seconde Guerre mondiale.
À la Seconde Guerre mondiale, au dernier article du dossier qui est intitulé Amis ou ennemis.
Le bilan est lourd, là aussi.
Oui, à couteau, mais plus délicat à traiter. Amis ou ennemis à couteau tiré sous le drapeau allié. C'est un article de Rémy Porte.
Oui, qui est un excellent historien militaire.
Bien connu, oui. Dans cet article, si vous voulez, je dis c'est toujours un peu plus délicat, c'est que effectivement déjà on se retrouve avec deux Frances, hein. Mm-hmm. La France, une France légitime, une France loyale, je sais pas comment on peut dire, enfin la France de Vichy et la France libre.
Mm-hmm.
D'ailleurs, je crois que c'est Churchill qui avait même proposé une fusion des deux pays pour sauver les meubles
au moment où il était question d'armistice. Ouais, ouais.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, bien évidemment, on parle de Mercel Kébir.
Ah bah Mercel Kébir,
on ne peut pas y échapper.
C'est pas bon pour les relations franco-anglaises, évidemment. Hein.
Mais il y a aussi, Dakar.
Oui, Dakar.
Et on s'aperçoit que finalement, la position anglaise, c'est toujours la même, c'est de porter des coups à la France dans son empire, et que finalement que l'empire soit fidèle à Vichy ou pas, ils s'en fichent totalement.
Oui, ils prétendent craindre que la flotte française, qui a été remarquablement reconstituée pendant l'entre-deux-guerres, que la flotte française puisse basculer du côté de l'Axe.
Alors que les conditions d'armistice étaient très claires, à ce sujet.
Bien sûr. Et l'agression de Mercel Kébir va évidemment susciter une vague d'anglophobie considérable.
Et de tous les côtés.
Bien sûr. Aussi bien
chez les gaullistes.
Ah oui, de Gaulle est lui-même furieux de cette situation quand il y a les attaques anglaises contre Mercel Kébir. Mmh. Et puis de Gaulle, il voit bien aussi que avec l'affaire de Dakar, les autorités vichistes sur place restent loyalistes par rapport au gouvernement de Vichy. Alors, c'est une grosse déception. Il réussit seulement à récupérer l'Afrique équatoriale, qui n'était qu'un petit morceau de ce qu'il espérait rassembler autour de lui.
D'ailleurs, je crois que c'est De Gaulle qui parlait de coup de hache qui a fait couler le sang français en parlant de Dakar. Parce qu'il faut, ouais. on parle avec raison très souvent de Mercier le Kébir, mais là, dans l'article, on évoque aussi beaucoup Dakar, où bah, le Dunkerque, qui avait réussi à s'échapper de Mercier le Kébir, est à nouveau touché.
Oui, c'est ça.
Le Richelieu, qui est un cuirassé moderne, qui avait quitté Brest en catastrophe avant l'entrée des Allemands dans la ville, est attaqué par les avions torpilleurs britanniques. Il est pas coulé, mais il est endommagé.
Alors qu'a priori, là où il n'était pas susceptible de tomber entre les mains des Allemands.
Non, bien sûr que non. Donc on a Dakar, et puis ce que Rémy Porte a développé, c'est également la situation au Levant.
Oui, tout à fait, la campagne de Syrie.
Qui me paraît, si vous voulez, Dakar ou Mercier le Kébir, c'est bien évidemment pas anecdotique, mais la situation au Levant me paraît beaucoup plus lourde de conséquences, même encore, encore aujourd'hui, où on voit véritablement que là, les Anglais ont tout fait pour nous...
Pour nous écarter du
Proche-Orient. Ça, il y a encore une humiliation, l'humiliation de la paix de Saint-Jean-d'Acre, qui est un épisode que j'ai découvert, qui est absolument insensé. C'est-à-dire qu'il y a une armistice qui est signée entre des Anglais et des Français de Vichy, sans que les Français libres y soient conviés.
Bien sûr.
Il me pardonnera, j'ai plus son prénom, Stéphane Carichon, qui a écrit un livre sur Harry de Villoutray, qui était un Français qui, au moment, un des premiers Français libres, premier compagnon de la Libération, qui avait quitté la Palestine au moment de l'armistice. Et qui a décidé donc de rejoindre la France libre, qui a été fait prisonnier par des Français de Vichy, qui a été emmené en France pour y être jugé et exécuté, et qui a été libéré grâce à la paix de Saint-Jean-d'Arc, qui est retourné ensuite combattre dans les rangs de la France libre. Donc voilà, tout ça, ce sont des anecdotes. Mais on s'aperçoit
Et puis il faut se rappeler aussi les bombardements sur la France occupée.
Oui, bon, ça c'est
éminemment discutable. Les habitants de Rouen et du Havre comprennent à quoi je veux faire allusion.
Oui, c'est exact. Voilà, mais sinon le Levant où les Anglais ont fomenté ensuite jusqu'à la fin de la guerre tout le nationalisme arabe et fomenté les émeutes anti-françaises en Syrie.
En Syrie,
ce qui a conduit à notre départ de la région.
Parce que là, il y a une rivalité franco-anglaise. D'ailleurs, Rémy Porte connaît bien ça parce qu'il y a consacré un ouvrage. Il y a une rivalité franco-anglaise en Orient pendant la guerre de 14. C'est pour exploiter la révolte arabe contre l'Empire ottoman.
Et donc, je vais reciter De Gaulle une dernière fois, avant qu'on arrive au terme de l'émission.
Oui.
Parlant de la convention d'armistice de Saint-Jean-d'Acre, De Gaulle a dit « Elle a amené les Britanniques dans ses fourgons, ils s'incrusteront et contribueront à chasser les Français du Levant. »
Bien sûr.
Merci raison.
Merci infiniment Guillaume Fiquet pour tous ces éclairages. Je rappelle donc le titre de votre revue, Revue d'Histoire Européenne, qui est une revue qui est en kiosque.
Qui est en kiosque, qui malheureusement on n'est pas dans tous les kiosques. Donc
il vaut mieux s'abonner.
Vraiment, si les auditeurs veulent nous soutenir à fond, c'est vraiment de s'abonner. Si vous me permettez de donner le site internet, on peut s'abonner sur librairie-du-collectionneur.fr.
Voilà. Et donc, ce numéro, avec ce dossier tout à fait passionnant, intitulé Perfide Albion. Consacré à des siècles d'intrigues britanniques.
Voilà, et il n'y a pas que
ça. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Philippe.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des historiens dirigé par Philippe Conrad, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 22 avril 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.